Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Rien ne m'agace plus que d'être obligé de mettre des cartons dans un sac poubelle rose réservé au recyclage. Abusant de se dire, pour voir vos poubelles enlevées, qu'il faut mettre du recyclable dans du plastique. C'est donc cela l'écologie vue par les politiciens. Remarquez que les trottinettes et les vélos électriques sont aussi de beaux exemples de préservation de la planète et de la vie des enfants congolais qui descendent dans les mines pour le grand bonheur de ceux qui ont besoin d'une aide électrique pour pédaler. Quant à la voiture électrique, je préfère ne pas en parler de peur de m'énerver outre mesure pour une émission de radio. Donc en 2023, l'écologie s'est multiplié les sacs poubelles, les tris. L'électricité est devenue pour la grande joie des multinationales une rente formidable. Les marchés bio, hors de la bourse du Pékin moyen, c'est-à-dire 80% de la population française. Les éoliennes, massacreuses d'oiseaux. Les camions qui encombrent les routes. Les transports en commun, inaccessibles. Et j'arrête là si je veux respecter l'horaire. Allons. Écoutons nos chères goguettes pour détendre l'atmosphère.
Une goguette de mauvaise foi écologique.
Lorsque je suis arrivé sur cette planète, l'écologie était encore une idée abstraite. Et mes parents, des gens charmants au demeurant et de gauche sans complexe, n'avaient pas encore adopté tous les réflexes. Ils ne triaient les déchets qu'à moitié, et arrosaient le gazon sans se poser de questions, étaient contre le nucléaire, mais zappaient d'éteindre les lumières, étaient anti-OGM, mais on en mangeait quand même. Ils disaient les marées noires, y en a marre, y en a marre, mais ne voulaient pas savoir ce qu'ils mettaient dans le réservoir. Mon père m'avait dit pourtant, j'arrête le Roundup au printemps, je vais voter pour les Verts, m'a dit à Noël ma mère, Noël ma mère.
Il y a un jeu de mots dans la chanson.
Lorsque j'ai débarqué à Paris, un peu plus tard, j'ai pu mesurer combien j'étais en retard. Et mes potes qui eux étaient à la pointe en furent à tel point perplexes que j'ai vite adopté tous leurs réflexes. Je fais mes courses à la Biocoop, c'est le top, c'est le top. Je limite mes emballages, c'est plus sage, c'est plus sage. J'ai 7 packs de tri chez moi, mais ça va, mais ça va. Faut juste que je cogite 30 minutes avant d'oser jeter un truc. J'ai arrêté le shampoing, ça me va bien, ça me va bien. Encore mieux que les toilettes sèches, je me suis installé une douche sèche. J'allume mes clopes au silex, c'est complexe, c'est complexe. Et je garde mes épluchures pour en faire des confitures. Je me déplace qu'à bicyclette, que c'est chouette, même si je mets 2 semaines et demie quand je veux aller en Normandie. Mon chauffage et mon frigo fonctionnent à la dynamo, et je récupère l'eau de mon bain pour me faire un café le matin, café le matin. Mais depuis que j'ai lu un traité de collapsologie, j'ai dû reconnaître qu'à nouveau, j'avais rien compris. Puisque de toute façon tout va s'effondrer, autant ne pas trop se creuser le cortex. J'ai vite abandonné tous mes réflexes. Désormais j'ai pris le pli, je fais plus le tri, je fais plus le tri. C'est un peu dur au début, mais peu à peu on s'habitue. J'ai racheté une vieille 4L, une diesel, et je fais rien que pour le kiff, plein de petits tours de périph. Je laisse le robinet couler, c'est le pied, c'est le pied. Je crie vive Bolsonaro et à mort Yannick Jadot. Le week-end je vais en forêt. Et discret, je disperse mes emballages, ça soulage, ça soulage. Et la biodiversité, rien à secouer, rien à secouer. Tant pis pour les ours polaires, j'ai des barbecues à faire. Je laisse allumer le radiateur, l'aspirateur, l'autocuiseur, l'ordinateur, le téléviseur, ouvert le réfrigérateur. J'achète tout plein de smartphones, je me bidonne, et je fais fondre la nuit dans une casserole les batteries. J'imprime en 1000 exemplaires sur des feuilles d'intercalaire l'œuvre intégrale de Balzac que j'avais chargée sur mon Mac. Et puis pour la pollution, je prends l'avion, je prends l'avion. Je fais des Orly Roissy avec escale à Bali. À la mer, je branche un tuyau pour faire remonter les eaux. Dans deux ans, si j'ai de la chance, j'aurai noyé toute la France. Je me parfume qu'au glyphosate, ça m'éclate. Et je passe mes week-ends à Rouen, en ce moment c'est très charmant. Comme tout va péter sous peu, autant se marrer comme on peut. Il se peut qu'aux prochaines élections, j'aille jusqu'à voter Macron. Il se peut qu'aux prochaines élections, j'aille jusqu'à voter Macron. Il se peut qu'aux prochaines élections, j'aille jusqu'à voter Macron. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon.
Quand j'étais enfant, pas de marché bio. Les marchandes de quatre saisons vendaient les produits des maraîchers situés aux abords de Paris. Pas de circuit long ainsi. Si je remonte un peu plus loin dans le temps, je me dis que le 19e siècle était plus écologique que notre époque. Connaissez-vous les bornes ? Pas la ministre. Mais ces bornes que l'on voyait encore il y a quelques années sur les trottoirs. On les trouvait souvent à un angle de rue. Elle marquait les endroits où l'on déposait ses ordures avant l'invention de la poubelle, du nom du préfet qui fit adopter en 1883, après une épidémie de choléra, cette mesure d'hygiène publique. Aussitôt, les chiffonniers s'insurgèrent contre cette loi qui les privait de leur gagne-pain. Ces chiffonniers ont été pendant des siècles ceux qui ramassaient, récupéraient, recyclaient absolument tout. Grâce à eux, pas de déchets, puisque tout objet jeté gardait une valeur marchande. Mais je laisse la parole à Antoine Compagnon qui, en 2016, a fait une étude approfondie sur les chiffonniers de Paris, livre que vous pouvez trouver en librairie. Voici donc un extrait de son interview sur France Culture.
Le chiffonnier est un agent de la modernisation de la société française au XIXe siècle, même si c'est un homme de l'Ancien Régime et qui remonte à très loin dans le temps. Il est toujours représenté au XIXe siècle, comme depuis le Moyen-Âge, avec une hotte sur le dos, un crochet dans la main droite, un bâton avec un bout de fer au bout et une lanterne dans la main gauche, puisqu'il travaille pour beaucoup la nuit dans les rues de Paris. Alors, le chiffonnier, comme son nom l'indique, c'est celui qui ramasse les chiffons. Et les chiffons ont beaucoup de valeur, il y a une échelle des prix des chiffons, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de produire du papier, et que le 19e siècle est de plus en plus vorace. L'imprimerie se développe, la presse, l'éducation, on lit de plus en plus, et on ne sait pas comment fabriquer le papier encore avec la cellulose du bois. Donc le chiffonnier est un agent de la modernisation de la société française au 19e siècle, même si c'est un homme de l'Ancien Régime et qui remonte à très loin dans le temps. Alors, vous l'avez dit, il ramasse pour l'essentiel les chiffons, parce que le chiffon est précieux. Une autre denrée précieuse au 19e siècle, ce sont les os. En anglais, c'est le rag and bone man. Le chiffon et l'os ont de la valeur, parce que avec les os, on fait le phosphore des allumettes. Il n'y a pas encore d'autres moyens de produire des allumettes. Ce ne sont pas encore les allumettes suédoises de la fin du siècle. L'os est indispensable pour beaucoup d'usages, hein, pour faire ce qu'on appelle le noir animal, qui sert à filtrer. Le sucre est blanc. Depuis le blocus continental, depuis qu'on produit le sucre avec de la betterave, ben le jus de betterave, c'est pas très beau. Le sucre est blanc grâce au noir animal produit par la calcination des eaux ramassées dans les rues de Paris.
Donc, les eaux de qui, de quoi ?
Les eaux de tout ce qui est mangé par les Parisiens, c'est-à-dire les poulets, les lapins, les chats, parce que très souvent on fait passer des chats pour des lapins, et puis tout ce qui est dans la ville de Paris, c'est-à-dire les ânes, les chevaux, les mulets. Dans une grande ville comme Paris, il y a des animaux partout. Hein, les abattoirs ne sont pas encore centralisés. Et puis on dit même que les os des catacombes ont parfois servi à produire du noir animal.
Les chiffonniers ont fasciné les hommes de lettres et on les retrouve chez Baudelaire dans son poème, entre autres, « Le vin des chiffonniers », récité ici par Yvon Jean.
Le vin des chiffonniers. Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux, où l'humanité grouille en fermant orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hachant la tête, butant, et se cognant au mur comme un poète. Et sans prendre souci des mouchards, ses sujets, il penche tout son cœur en glorieux projet. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament comme un dé suspendu, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge, le dos martyrisé sous deuil du débris, trouble, vomissement du fastueux Paris. Reviennent, parfumés d'une odeur de futaille, suivis de compagnons blanchis dans les batailles, dont la moustache pend comme les vieux drapeaux, les bannières, les fleurs, les arcs triomphaux, se dressent devant eux, solennelle magie, et dans l'étourdissante et lumineuse orgie, éclairant du soleil, des cris et du tambour, il apporte la gloire au peuple ivre d'amour. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or, éblouissant pactole. Pour le gosier de l'homme, il chante ses exploits, et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence, de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, saisi de remords, avait fait le sommeil. L'homme ajouta le vin, fait sacré du soleil.
Les chiffonniers, on les retrouve aussi sous la plume de Balzac, Banville, Champfleury, Nodier, Vallès, Eugène Sue et même Hugo, Privat d'Anglemont. Et de très nombreux journalistes laissèrent des portraits de ce personnage fameux. Les dessinateurs et caricaturistes comme Daumier ou Traviès ne se privèrent pas de le croquer. Et le mime de bureau, le Pierrot célèbre, en fit une pantomime, le billet de 1000 francs. Le chiffonnier intriguait, et Jules Janin écrivait dans Paris où le livre descend un. Dans les petits métiers, le chiffonnier est au moins le premier. Le chiffonnier est le plus grand des industriels en petit. C'est un être à port grave, solennel, muet, qui dort le jour, qui vit dans la nuit, qui travaille, qui spécule la nuit. C'est le dernier être de la création qui fasse justice de tout ce qui se dit ou s'imprime dans le monde. Le chiffonnier est inexorable comme le destin. Il est patient comme le destin. Il attend. Mais quand le jour du croc est venu, rien ne peut retenir son bras. Tout un monde a passé dans sa hotte. Les lois de l'Empire, dans cette hotte immense, courent rejoindre les décrets républicains. Tous nos poèmes épiques depuis Voltaire y ont passé. Tout le journal depuis 30 ans s'est englouti dans cette hotte, après avoir dévoré tout ce qui s'était remis debout. La hotte du chiffonnier, c'est la grande voirie où viennent se rendre toutes les immondices du corps social. Sous ce rapport, le chiffonnier est un être à part, qui mérite son histoire à part. Le chiffonnier est bien mieux qu'un industriel. Le chiffonnier est un magistrat. Magistrat qui juge sans appel, qui est tout à la fois le juge, l'instrument et le bourreau. Maxime Ducamp a évoqué le chiffonnier dans son ouvrage en 6 volumes sur Paris. Tout se vend à Paris, car tout s'achète. Les 5952 chiffonniers médaillés qui parcourent nos rues pendant la nuit, le cachemire d'osier aux épaules, le crochet d'une main et la lanterne de l'autre, ont une bourse où l'on spécule sur les loques et sur les verres cassés. Emmanuel Bénézite, à la fin du 19e siècle, dans son livre « Petits métiers, petites industries », donne une idée de ce qu'était le travail des chiffonniers. Toute la famille s'emploie à ce travail. On sépare les os qui seront livrés à l'industrie pour la coutellerie, la fabrication des boutons, la fabrication des engrais. Les chiffons de papier, suivant leur nature et leur état de propreté, seront réunis pour les papeteries ou les cartonneries. Les vieilles cordes auront la même destination. Les chiffons blancs seront soigneusement mis de côté pour l'essuyage des machines à vapeur. Ceux moins propres, qu'ils soient de coton, de toile, de laine, prennent le chemin des papeteries. Les ferrailles, les pièces de métal, seront expédiées aux fonderies. Les croûtes de pain seront vendues pour l'élevage des animaux de basse-cour ou aux fabriques de colle de pâte. Les vieilles chaussures sont vendues aux savetiers. Tout cela est rangé, mis en ballot, en attendant le camion du marchand en gros. Au milieu de tout ce rebut, le chiffonnier est dans son élément. Mais le chiffonnier, obéissant aux lois économiques modernes, ne s'en tient pas toujours au commerce de gros. Il fait le détail. Ceci n'est pas un des côtés les moins curieux de ce gagne-petit. Nombre d'entre eux font de la brocante. Rien de plus extraordinaire que certains étalages du marché de Bicêtre, vulgairement appelé le marché aux puces. Sur une toile de plusieurs mètres de longueur et étendue à terre s'amassent d'inexprimables objets. Les chapeaux de fabre, quel chapeau, y voisinent quelquefois avec les vieux clous rouillés, des livres crasseux et incomplets, d'horribles gravures, quelquefois même des coupures de journaux illustrés, des objets de toile, brosses à dents, peignes édentées, des peintures extraordinaires souvent crevées attendent les acheteurs. Tout cela a passé par le tas d'ordures. C'est la fleur des pois de la haute, le dessus du panier, si l'on nous permet cette expression. Autrefois, ce choix était vendu à raison de quelques sous aux brocanteurs. Certains chiffonniers le font encore, mais il en est d'autres qui ont jugé bon de réaliser le bénéfice réalisé par cet intermédiaire. Le rapport direct du producteur et du consommateur, ni plus ni moins. Ce que beaucoup de gens refuseront peut-être de croire, c'est que lorsqu'on a le courage d'aller examiner ces répugnants bibelots, on y fait quelquefois de merveilleuses trouvailles. Les marchands de curiosités, antiquaires et autres, le savent bien, et il en est plus d'un qui visite régulièrement non seulement le marché de Bicêtre, mais tous ceux du même genre. Un de nos amis acheta un jour au marché aux puces une charmante bonbonnière émaillée du XVIIe siècle représentant le portrait de Marguerite de Valois. C'était très certainement l'œuvre de Jean Petitot, dont on admire au Louvre les beaux portrait peint en émail ou d'un de ses meilleurs élèves. Rami paya l'homme 5 centimes. On ne peut se faire une idée des choses jetées aux ordures et que recueille le chiffonnier. Leurs plus belles trouvailles se produisent après les nettoyages d'appartements à la suite du décès de vieilles gens vivant seuls. Les personnes chargées du travail n'attachent souvent pas d'importance à un objet abîmé ou défraîchi qui pourra être une précieuse bourse Louis XVI ou la bonbonnière dont nous parlions plus haut. Les chiffonniers donnent souvent des exemples de probité tout à fait remarquables, tel celui de ce brave Biffin qui, trouvant un billet de 1000 francs dans un tas d'ordures, s'empressa de le remettre au concierge de l'immeuble devant lequel il avait fait la trouvaille. Cet exemple et bien d'autres qu'on pourrait citer font le plus grand honneur à une corporation de travailleurs pour qui la vie est généralement pénible. Vous remarquez dans ce texte les débuts de la brocante, des marchés aux puces. Ce marché de Bicêtre, j'y accompagnais mes parents lorsque j'étais jeune. Et je me souviens particulièrement d'un vase de la manufacture de Sèvres qu'ils avaient obtenu pour 50 francs, soit 7 euros actuels. C'était encore l'époque des chiffonniers. Mais depuis quelques années, cette envie d'acheter brocante revient à la mode, rien de nouveau sous le soleil. Un petit intermède avec la chanson du chiffonnier, composée par Henriette Bosman, une pianiste et compositrice néerlandaise, née en 1895 et morte en 1952. Thank you. Ainsi, à partir du ramassage des chiffons, les chiffonniers devinrent de véritables écologistes avant l'heure. Rien ne se perd, tout se transforme. La formule de Lavoisier est dans ce cas précis, on ne peut plus juste. Aujourd'hui, nos écologistes nous demandent de trier, tentent de recycler, veulent nous faire croire qu'ils trouvent des solutions qui ne sont jamais mises en place ou alors à titre expérimental. On veut nous faire croire que la Seine redeviendra propre. Nos politiques pensent-ils réellement avoir la primeur de cette idée? Au XIXe siècle, c'était déjà une préoccupation et il existait des solutions sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine émission. Jusque dans les années 1950, cette volonté de conserver, de recycler était très ancrée dans les mentalités. Mais l'influence américaine et les Trente Glorieuses ont eu raison de ce besoin de garder ou de transformer. Il fallait consommer et jeter tout ce qui nous paraissait démodé. Mais l'urgence climatique a fait prendre conscience que ce mode de vie révolutionnaire n'était qu'un leurre pour enrichir les multinationales et leurs grands capitalistes. Mais revenons au chiffonnier du XIXe siècle, avec Émile de la Bédolière, qui en 1842, dans son ouvrage « Les industriels, métiers et professions en France », laissait un témoignage sur ce métier. Il était quelque peu sévère avec ces hommes en qui il voyait les remplaçants des truands de la cour des miracles, tout en reconnaissant pourtant la grande probité de cette corporation. Mais, demandent avec étonnement les gens du monde, comment le chiffonnier peut-il subsister ? Qui peut vouloir de son ignoble marchandise ? Leur surprise augmentera quand nous leur affirmerons que certains marchands de chiffons sont riches. Mais elle diminuera sensiblement lorsque nous leur aurons montré tous les trésors que renferme la hotte d'un chiffonnier. Rien de ce qu'ils ramassent au coin des bornes n'est perdu pour l'industrie. Les vils débris qu'ils retirent de la boue sont comme de hideuses chrysalides auxquelles la science humaine donnera des formes élégantes et des ailes diaphanes. Ainsi, les fabricants de carton et de papier achètent pour leur usage les carons, vieux papier sale, le gros de Paris, toile d'emballage, reste de sac, le gros de campagne, chiffon de couleur, cotonnade, le gros bulle, toile en fils grossières et sales, le bulle, même qualité mais plus propre, le blanc sale, chiffon, ordinairement de cotonnade, le blanc fin, chiffon propre et de toile de fil. Les chiffons d'une dimension raisonnable passent entre les mains des revendeuses à la toilette du marché du Temple. Les fabricants de produits chimiques tirent du sel ammoniaque des lambeaux de laine ou de drap. On fait de nouvelles vitrines avec les morceaux de verre cassés et de nouvelles ferrures avec les anciennes. Un grand festin s'est donné, les convives étaient nombreux. Les services variés, les mets exquis. Les débris amoncelés près de la porte de l'hôtel attestent la magnificence de la fête. Eh bien, tous ces restes sont utilisés. Les coquilles d'huîtres fument les champs ou servent à la fabrication de la chaux. Les bribes de pain engraissent les bestiaux, si elles ne sont pas assez présentables pour grossir les soupes consistantes des maçons et des limousins, ou pour être consommées par le chiffonnier en personne. Et les os sont-ils négligés ? Les tabletiers, les tourdeurs, ne savent-ils pas les changer en bilboquets, en quilles, en dominos, en fiches d'échiquier, en cure-dents, en couteau à papier ? Les os calcinés et pulvérisés ne sont-ils pas la base du noir animal, cet engrais puissant ? Et les assiettes cassées ? On en ôte précieusement la dorure ? Et la porcelaine entre dans la composition du ciment romain, où, réduite en poudre impalpable, elle est mêlée au papier dont elle augmente le poids. Les chiffonniers ne font la guerre qu'aux animaux domestiques, aux chiens et aux chats qu'ils vendent à l'écarisseur. Un dog vaut de 30 à 40 sous, un chien de moyenne taille de 5 à 10 sous, un chien de moyenne taille de 5 à 10 sous, un chat 4 sous en été, 8 sous en hiver. Les tondeurs emploient la graisse de chat, d'autres artisans l'huile de pied de chien, et les fourreurs s'accommodent des peaux qui deviennent entre leurs mains du renard noir ou de la marthe zibeline. Il fut dans la famille des chiffonniers une branche collatérale, aujourd'hui proscrite, celle des gratteurs de ruisseaux. Après les pluies d'orage, ils se précipitaient dans les rues et fouillaient la boue avec une persévérance souvent fructueuse. Ils ramassaient de vieux clous, des ferrailles, de l'or même. Mais la police les a suspendus de leurs fonctions sous prétexte qu'ils déchaussaient les pavés.
Le jour m'a servi d'éteignoir, brinquebale, tatimbale. Le jour a servi d'éteignoir aux étoiles fatiguées, brinquebale, chiffonnier. Tu as rêvé de belles prises, brinquebale, tatimbale. Tu as rêvé de belles brises dans les gants jetés des marquises. Brinquebale, chiffonnier. Des poètes se sont rencontrés, brinquebale, tatimbale. Des poètes se sont rencontrés, ils ont fini par s'en saouler. Brinquebale, chiffonnier. La La rue là-bas lève son nez. Breuk-balle, tatabale. La rue là-bas lève son nez. Notre-Dame s'est embrumée. Breuk-balle, chiffonnier. Le jour a servi d'éteignoir, braque-balle, tatin-balle. Le jour a servi d'éteignoir aux étoiles fatiguées. Braque-balle, chiffonnier.
Vous venez d'écouter La Ballade du chiffonnier, une chanson populaire interprétée en 1957 par les chanteurs Marc et André. Ces chiffonniers arpentaient les rues dès le Moyen-Âge, mais au XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier, dans Le Tableau de Paris, leur rend hommage. Le chiffonnier. Je l'ai prononcé, ce mot ignoble. Me le pardonnera-t-on ? Le voyez-vous, cet homme qui, à l'aide de son croc, ramasse ce qu'il trouve dans la fange et le jette dans sa hotte ? Ne détournez point la tête, point d'orgueil, point de fausse délicatesse. Ce vil chiffon est la matière première qui deviendra l'ornement de nos bibliothèques et le trésor précieux de l'esprit humain. Ce chiffonnier précède Montesquieu, Buffon et Rousseau. Sans son croc, mon ouvrage n'existerait pas pour vous, lecteurs. Ça ne serait pas un grand mal, d'accord, mais vous n'auriez aucun livre. Vous lui devez cette matière qui va former le papier, dont l'origine paraît si vile. Tous ces chiffons mis en pâte, voilà ce qui servira à conserver les flammes de l'éloquence, les pensées sublimes, les traits généreux des vertus, les actions les plus mémorables du patriotisme. Toutes ces idées volatiles vont se fixer aussi rapidement qu'elles ont été conçues. Toutes ces images tracées dans l'entendement s'attacheront, s'imprimeront, se colleront. Et malgré la nature qui fait mourir l'homme de gêne, ces productions appartiendront désormais à l'univers et ne périront qu'avec lui. Honneur au chiffonnier. C'est un très beau texte qui donne au chiffonnier sa place première, à savoir la place de celui qui, par ses ramassages nocturnes, permettait de fabriquer le papier avant l'utilisation de la cellulose du bois. Je voudrais terminer cette émission sur le métier du chiffon, un texte écrit en 1860 par Marc Trapadoux pour l'ouvrage collectif « Paris qui s'en va et Paris qui vient ». Ouvrage écrit devant les travaux du baron Haussmann qui détruisait le Paris dans lequel lui et ses amis avaient vécu. C'est par cette volonté de témoigner que ces écrivains nous ont laissé une image si vivante de Paris. L'extrait que j'ai choisi donne une idée de ce que pouvait être une boutique de chiffonnier. La boutique est une vaste et haute pièce carrée, blanchie à la chaux, qui sert en même temps d'atelier. Le premier triage, a été fait et tout ce qui n'est pas chiffon a été écarté et emmagasiné. Le carreau disparaît sous des couches plus ou moins épaisses de loques et de chiffons, de lambeaux et de guenilles répartis en lots suivant leur nature, divisés par catégories suivant leur nature, amoncelés en tailles en monceaux, en monticules et en montagnes. L'on croit voir une carte géographique en relief. Plongé dans les vallées qui forment ces éminences, l'on aperçoit deux femmes, dont l'une, encore assez jeune, conserve sa beauté malgré ce milieu délétère et une certaine grâce malgré ses occupations grossières. Entièrement enveloppée d'un immense tablier de cuir, armée d'une paire de ciseaux formidables, elle reconnaît et trie, la marchandise, sépare la soie, le drap, la peau, le papier, la corde et la ficelle, taillant, rognant, découpant chaque article, formant de grands morceaux, de petits morceaux, des morceaux imperceptibles, des bandes, des carrés, des losanges, des effilochures, des brins pour le raccommodage, pour la doublure, pour l'embourrage, et aussi pour une foule de fabrications à bon marché, assortissant les couleurs et les formes, façonnant et parant la marchandise. Rien n'est perdu. Le velours et le drap font des casquettes, des pantoufles, des bottines, des manchons de fer harpacés, des coussinets pour les appuis de balcon, des pelotes, des rhumes d'escalier, des polissoirs. Bien des chapeaux de femmes, bien des bonnets, bien des courtes pointes, bien des robes même sont sortis rayonnants et triomphants de cet obscur chaos. Sous des appentis recouverts de lattes moussues et soutenus par des perches tremblantes, sont disposés des compartiments longs, étroits, profonds et inclinés. Dans ces tombeaux dorment, en attendant le jour de leur métamorphose, tous les détritus, tous les déchets des trois règnes. Côte à côte reposent les tessons de verre et les os, les porcelaines cassées et les pots, la ferraille et les cornes, le vieux papier et les poils, les ficelles et les cheveux, les bouchons et les nerfs de bœuf, les dents, les brosses, les peignes et les croûtes de pain. Dans un coin, un baquet où nagent confusément des cervelles. Tout près, un tonneau rempli jusqu'au bord de philosophes, des vieux souliers. Les souliers de tout un arrondissement. Un peu plus tard, deux caisses, dont l'une renferme des plumes et de la plume, du coton cardé et du crin, et l'autre, des caractères d'imprimerie mêlés à des chandeliers oxydés et à des couteaux ébréchés. Le fantastique est complet. Cet étrange assemblage d'éléments hétérogènes vous provoque comme un problème philosophique et fait surgir les plus redoutables questions sur l'origine, la nature et la destinée de l'être. On comprend pourquoi le chiffonnier était associé à l'image du philosophe, en opposition à ceux qui voyaient en lui un abruti aviné. Quoi qu'il en soit, il fut à l'origine de ce que l'on nous oblige à faire dans notre cuisine, le tri sélectif. Mais il me semble que l'on est loin du recyclage extraordinaire fait à partir des hottes des chiffonniers. Alors, fin de cette première partie d'émission sur les chiffonniers. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.